Soyez les bienvenus à cette rencontre de conférence de carême qui commence aujourd'hui. Nous aurons cette année à réfléchir sur la doctrine sociale de l'Église. Et la toute première conférence d'aujourd'hui prendra en compte la dimension historique de cette doctrine. En introduction, nous pouvons dire que l'homme, comme un être social, est engagé dans un réseau de relations socio-économiques, politiques et culturelles qui font son épanouissement. Mais ces rapports sont parfois viciés par l'injustice, l'inégalité, l'intérêt personnel, la haine, cause de l'émergence des sources de conflits et de tensions. Cette situation compromet dangereusement la paix. Rester longtemps muette devant les questions de la société, l'Église, depuis la mémorable encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, a pris la conscience de son devoir d'enseignement social pour défendre la dignité de la personne humaine et sauvegarder la paix. Pour ce faire, elle a élaboré un enseignement social, une doctrine où elle met l'accent sur la justice et la charité, ainsi que sur les obligations pour garantir et favoriser la paix. Pour comprendre le développement historique de la doctrine sociale de l'Église, il faut pénétrer dans le contexte socio-culturel de chaque document et comprendre les conditions économiques, sociales, politiques et culturelles dans lesquelles ils ont été publiés. Mais, avant tout, définissons la doctrine sociale de l'Église. Voyons sa nature, ses sources et ses inspirations. Définition et nature de la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église est un ensemble d'exigences éthiques chrétiennes liées à la vie sociale, économique et politique. Elle est aussi appelée éthique sociale chrétienne, enseignement chrétien, enseignement social de l'Église. En fait, il s'agit d'un ensemble de conceptions, enseignements et praxis que le magistère de l'Église propose aux fidèles et aux hommes de bonne volonté en vue de les aider à organiser une société plus humaine et conforme au dessein de Dieu. Loin d'être un système ou une simple idéologie, la doctrine sociale de l'Église résulte de l'analyse concrète des situations humaines à la lumière de l'Évangile. La doctrine sociale de l'Église est donc née des réflexions de l'Église sur les temps modernes et leurs difficultés particulières. Elle s'est développée du pape Léon XIII à nos jours en trois étapes marquantes en réponse au problème de la condition ouvrière et des idéologies politiques. D'abord, de 1891 à la Deuxième Guerre mondiale, puis autour du Concile Vatican II jusqu'aux années 80, enfin avec le catéchisme de l'Église catholique et les trois derniers papes, à savoir Jean-Paul II, Benoît XVI et François, dans une humanité qui connaît de plus en plus la mondialisation. Les sources et inspirations de la doctrine sociale de l'Église. Nous distinguons quatre sources fondamentales: la loi naturelle, les Écritures, l'enseignement des Pères, le magistère de l'Église et les grands théologiens. Mais cet ensemble sera présenté en trois points synthétiques, à savoir la loi naturelle, les Écritures et la tradition, le magistère et les théologiens. La loi naturelle, elle est l'instance régulatrice du droit naturel. Elle est la loi inscrite par le Créateur dans le cœur de chaque homme et dont ce dernier prend soin naturellement et dont ce dernier prend naturellement conscience. La connaissance, sa connaissance est infuse. Elle est l'expression en l'homme des exigences. Cela montre que l'homme est fondamentalement fait pour le bien. La loi naturelle invite constamment l'homme à faire le bien et à éviter le mal. Le pape Pie XII définit la loi naturelle comme le fondement sur lequel repose la doctrine sociale de l'Église. Les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, et la tradition, les pères de l'Église. La doctrine sociale de l'Église tire son origine dans la rencontre du message évangélique et des exigences éthiques avec les problèmes sociaux. La révélation confirme, approfondit et dépasse la loi naturelle. Elle nous apprend que la personne humaine est dotée d'une dignité du fait qu'elle est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Confère Genèse 1, verset 27. Le pape Jean-Paul II renchérit dans Evangelium Vitae: l'homme est dans le monde une manifestation de Dieu, un signe de sa présence, une trace de sa gloire. Cette dignité de l'homme n'est pas seulement à ses origines, au fait qu'il vient de Dieu, mais aussi à sa fin, à sa destinée, qui est d'être en communion avec Dieu. Cette vérité doit susciter en l'homme le désir de travailler dans l'espérance du ciel et informer et dynamiser son agir moral. Par ailleurs, par le précepte divin, dominez la terre et soumettez-la, Genèse chapitre 1, verset 28, l'homme a reçu le pouvoir de disposer des biens de la nature pour son épanouissement. Mais pour atteindre sa finalité, la gestion des biens doit se faire dans la justice, la charité et la paix. Ce sera l'enseignement constant et pressant des prophètes Amos, Osée, Ézéchiel et Jérémie qui ont dénoncé l'injustice, proclamé le droit du pauvre, du faible et du péché et du petit et prêché la justice. Dans leur enseignement, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent selon la belle expression du psaume 85, verset 11. Quant à la nouvelle alliance, elle porte l'ancienne alliance à sa perfection, notamment par le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans son discours sur la montagne, au chapitre 5 de l'évangile de Saint Matthieu, le Christ reprend et confirme le précepte de justice et donne la loi nouvelle de la charité qui doit animer toutes les vertus. Dans l'Évangile, on trouve aussi un enseignement sur la richesse et la pauvreté, sur l'usage des biens matériels et leur destination à tous. Pour leur part, les pères de l'Église appliquent les exigences du dessein du salut de Dieu aux problèmes sociaux de leur temps. Ainsi élaborent-ils une doctrine morale rigoureuse sur l'usage des richesses et la destination universelle des biens de la terre. Parmi ces pères de l'Église, nous pouvons citer Clément d'Alexandrie, Cyprien, les pères cappadociens, Saint Augustin, et pour l'époque scolastique, Saint Thomas d'Aquin, dont la pensée a influencé tout l'enseignement social de l'Église jusqu'à nos jours, le magistère et les théologiens. C'est le même plan divin qui inspire aujourd'hui les interventions du magistère en matière sociopolitique et économique. Ainsi, le pape du pape Léon XIII à Pie XI, c'est surtout la société industrielle qui était interpellée. À partir de Pie XII jusqu'à nos jours, le champ d'intervention s'est élargi à beaucoup d'autres secteurs de la vie sociale. La famille, le travail, l'économie, le développement, l'écologie, la communauté politique, la communauté internationale, la paix, les droits de l'homme, la culture, la morale et la civilisation. Le pape Léon XIII, préoccupé par la question ouvrière, c'est-à-dire des problèmes issus de la déplorable situation où se trouvait le prolétariat industriel, intervient avec l'encyclique Rerum Novarum. Dans l'encyclique, le souverain pontife expose les principes doctrinaux qui peuvent servir à guérir le mal social latent dans la condition des travailleurs. 40 années plus tard, le pape Pie XI ressentit le devoir et la responsabilité de promouvoir la connaissance, une connaissance plus grande, une interprétation plus exacte et une application plus urgente de la loi morale, régulatrice des rapports humains, dans le but de surmonter les conflits des classes et d'arriver à un nouvel ordre social basé sur la justice et la charité. Grâce à cette attention au nouveau contexte historique, son encyclique Quadragesimo Anno apporte un aperçu nouveau. Donc, c'est pour fêter les 40 ans de Rerum Novarum, puisque c'est avec Rerum Novarum que la doctrine sociale de l'Église a pris son envol. Le pape Pie XII n'a pas écrit d'encyclique sociale. Il intervient sur les problèmes sociaux de son temps dans une ample série de discours dont les radios messages. Les points sur lesquels il s'est appliqué à mieux concrétiser la doctrine sociale et à l'appliquer aux problèmes de son temps sont principalement les suivants. La destination universelle des biens et leur usage, les droits et devoirs des travailleurs et des employeurs, la fonction de l'État dans les activités économiques, la nécessité de la collaboration internationale pour mettre en œuvre une plus grande justice et assurer la paix, la restauration du droit comme règle des rapports entre les classes et entre les peuples, le salaire familial de base. Dans les années de guerre et d'après-guerre, le magistère social de Pie XII représenta pour de nombreux peuples de tous les continents et pour des millions de croyants et de non-croyants la voix de la conscience universelle, interprétée et proclamée en connexion intime avec la parole de Dieu. Venons maintenant au pape Jean XXIII. Après la Seconde Guerre mondiale, la question sociale subit un processus d'unification universalisation qui impliqua toutes les classes, tous les pays et la société internationale elle-même, où le drame du tiers-monde devenait toujours plus dominant. L'encyclique Mater et Magistra, c'est-à-dire l'Église mère et éducatrice des peuples du pape Jean XXIII, vise à mettre à jour les documents déjà connus et à faire un nouveau pas en avant dans le processus d'implication de toute la communauté chrétienne. Il fait ressortir les inégalités existantes tant entre les différents secteurs de l'économie qu'entre les divers pays et régions et dénonce les phénomènes de la surpopulation et du sous-développement qui, à cause du manque d'entente et de solidarité entre les nations, crée des situations insupportables, spécialement dans le tiers-monde. Le même pape Jean XXIII, devant les périls d'une nouvelle guerre nucléaire, après être intervenu dans un message mémorable adressé au peuple et aux chefs d'État, publia un nouveau document plus aigu, l'encyclique Pacem in Terris, sur la paix entre les nations, qui est une exhortation urgente à construire la paix fondée sur le respect des exigences éthiques qui doivent présider aux relations entre les hommes et entre les États. Le Concile Vatican II. 4 ans après la publication de Mater et Magistra, la constitution pastorale Gaudium et Spes, l'Église dans le temps, du Concile Vatican II, sur l'Église dans le monde de ce temps, voit le jour. La constitution conciliaire a suscité un nouvel intérêt pour la doctrine contenue dans les documents précédents au sujet du témoignage et de la vie des chrétiens comme voie authentique pour rendre visible la présence de Dieu dans le monde. Dans Gaudium et Spes, l'Église montre combien profonde est la sensibilité pour la conscience croissante des inégalités et des injustices présentes dans le monde et en particulier pour les problèmes du tiers-monde. C'est la première fois qu'un document du magistère solennel de l'Église s'est exprimé aussi amplement sur les aspects directement temporels de la vie chrétienne. On doit reconnaître que l'attention portée par la Constitution aux engagements sociaux, psychologiques, politiques, économiques, moraux et religieux a stimulé toujours plus en ces 20 dernières années la préoccupation pastorale de l'Église pour les problèmes des hommes et le dialogue dans le monde. Le pape Paul VI maintenant. Quelques années après le Concile, l'Église offrit à l'humanité une nouvelle et importante réflexion en matière sociale avec l'encyclique Populorum Progressio du pape Paul VI sur le développement des nations. Ceci peut être considéré comme un développement du chapitre de la vie socio-économique de Gaudium et Spes, tout en introduisant certains aspects nouveaux significatifs. En peu de temps, en effet, s'était développée la prise de conscience des inégalités qui créaient des discriminations et soumettait à des situations d'injustice et de marginalisation de nombreux pays du tiers-monde. Ce problème était aggravé par des circonstances particulières comme l'accélération du déséquilibre existant entre les pays pauvres et les pays riches, et la croissance démographique du tiers-monde. Dans leur région et chez les peuples les plus pauvres et les plus marginalisés, l'analyse du sous-développement et de ses causes provoqua le scandale et fit se développer la lutte contre l'injustice. Voulant convaincre ses destinataires de l'urgence d'une action solidaire, le pape présente le développement comme, le passage des conditions de la vie moins humaines à des conditions de la vie plus humaines. Fin de citation, et en précise les caractéristiques. 4 ans après Populorum Progressio, le pape Paul VI publia la lettre apostolique Octogesima Adveniens. C'était à l'occasion du 80e anniversaire de Rerum Novarum. L'encyclique commença une nouvelle réflexion pour la compréhension de la dimension politique de l'existence et de l'enseignement chrétien, stimulant à son tour le sens critique face aux idéologies et aux utopies sous-jacentes au système socio-économique en vigueur. Le pape Jean-Paul II. 10 ans plus tard, en 1981, le pape Jean-Paul II intervient avec la plus grande encyclique, Laborem Exercens, sur le travail humain, pour le 90e anniversaire de Rerum Novarum. Le document se déroule sous forme d'exhortation directe adressée à tous les chrétiens pour les engager dans la transformation du système socio-économique en vigueur, et il donne des orientations précises sur la base de la préoccupation fondamentale du bien intégral de l'homme. Laborem exercens propose donc la révision profonde du sens du travail qui implique une redistribution plus équitable non seulement du revenu et de la richesse, mais encore du travail lui-même, de telle sorte qu'il y en ait suffisamment pour tous. En décembre 1987, à l'occasion du 20e anniversaire de Populorum Progressio, le pape Jean-Paul II a publié l'encyclique Solicitudo Rei Socialis, dont l'axe central est la notion du développement comme elle a été abordée dans le document du pape Paul VI, c'est-à-dire Populorum Progressio. Dans le but de mettre à jour et d'approfondir encore la notion du développement, afin que celui-ci réponde aux urgentes nécessités du moment historique présent et soit vraiment à la mesure de l'homme. Le pape Benoît XVI reprenant l'enseignement du pape Paul VI dans Populorum Progressio, qui exposait l'annonce du Christ comme principal facteur de développement, le pape Benoît XVI précise que seule la charité éclairée par la lumière de la raison et de la foi permettra un développement humain pour notre monde. Il écrit l'encyclique Caritas in Veritate en 2009. Benoît XVI avait assuré lors de l'Angelus du 29 juin 2009 que le document serait une nouvelle contribution de l'Église destinée à l'humanité dans ses efforts pour un développement durable dans le plein respect de la dignité humaine et des exigences réelles de tous. Finissons par le pape François. En 2015, l'actuel pape François a écrit l'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. Il s'agit sans doute d'un document magistériel le plus important depuis le Concile Vatican II. L'encyclique précise la vision chrétienne de l'écologie en s'appuyant sur la notion d'écologie globale pour souligner l'importance d'une vision intégrée des différentes facettes de la question écologique, environnement, développement et écologie humaine. Notons enfin le rôle très important des théologiens, des philosophes, des hommes de science positive et humaine qui préparent les positions du magistère par des questions sociales, pour les questions sociales, sans être auteur de la doctrine sociale de l'Église, ces spécialistes fournissent au magistère, sans confusion ni mélange, avec leur position personnelle, une documentation de précieuses informations et favorisent les applications concrètes des principes énoncés dans la doctrine sociale de l'Église. Nous allons conclure en disant que la vue panoramique de la doctrine sociale de l'Église nous aide à comprendre la complexité, la richesse, le dynamisme de cette doctrine. Cette vue nous permet également d'appréhender les limites de la doctrine sociale de l'Église. Chaque document marque un nouveau pas en avant dans l'effort déployé par l'Église pour répondre aux problèmes de la société et aux divers moments de l'histoire. En chacun d'eux, il faut surtout relever la préoccupation pastorale de proposer à la communauté chrétienne et à tous les hommes de bonne volonté les principes fondamentaux et les critères universels, les orientations aptes à suggérer les choix en profondeur et la paix cohérente pour chaque situation concrète. La mise en relief de cette dimension historique montre que la doctrine sociale de l'Église, exprimée avec clarté et cohérence dans ses principes essentiels, n'est pas un système abstrait, arrêté et défini une fois pour toutes, mais un système concret, dynamique et ouvert. Il s'agit d'une œuvre toujours en construction, ouverte aux interprétations des réalités nouvelles et des problèmes nouveaux qui apparaissent dans ces secteurs. Sur ce chemin, ce long chemin, l'Église continuera de rendre concrets les enseignements et les valeurs de la doctrine sociale en proposant des principes de réflexion et des valeurs permanentes, de critères de jugement et des directives. Voilà ce que je retiens de l'historique ou de la dimension historique de la doctrine sociale de l'Église. Alors je vous remercie pour votre attention. Bonne célébration dominicale et bon dimanche à vous.